Le journal, Mireille Boukassa. Les groupes armés de l'Ituri n'ont plus que quelques heures pour s'inscrire au désarmement. Le délai expire dans quelques instants. Le responsable de l'unité d'exécution du PNDDR lance un dernier appel aux récalcitrants et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC parle, lui, d'une dernière chance. Trois policiers condamnés à la peine capitale par le tribunal militaire de garnison de Kikwit. Ils sont accusés d'avoir arrêté arbitrairement et tué un mécanicien réparateur de moto. Les jeunes chinois sensibilisés sur les décisions à prendre quotidiennement face au VIH-Sida. La formation se fait à travers une kermesse organisée par l'ONG Rajok Sida avec l'appui de l'UNICEF. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus de 2800 combattants de l'Ituri sont déjà inscrits sur les listes pour le désarmement, vous le savez. Selon les estimations des autorités congolaises, il en reste au moins 1600. Les chefs des groupes armés de l'Ituri sont appelés à déposer les listes de ceux qui restent. Le délai expire aujourd'hui, vendredi 17 août. Le temps de la guerre est passé, il faut reconstruire le pays. C'est l'appel que lance le responsable de l'unité d'exécution du programme national DDR, Tumba Luaba.
C'est vraiment la dernière chance et les responsables de groupes armés eux-mêmes nous ont dit qu'ils ne vont plus tolérer qu'il y ait d'autres groupes armés qui apparaissent en Ituri et nous n'accepterons plus d'autres groupes armés en Ituri, c'est fini. On ne tolérera plus de violence en Ituri. L'État est venu pour la paix et pour la reconstruction. Et pour eux, l'intérêt est que parmi eux, il y a des gens qui ont été par exemple embarqués par la force ou sans le vouloir dans les groupes armés et qui veulent regagner la vie civile. Nous leur donnons cette dernière chance. Au stade de la réinsertion, il y a même un apprentissage d'un métier, d'une profession. Le PNUD prévoit même des programmes de développement et de reconstruction communautaire. Ce qui revient à dire, ce que les ex-combattants ont détruit hier, ils doivent contribuer à reconstruire.
Cet appel du responsable de l'unité d'exécution du programme national DDR est renforcé par celui du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Pour Ross Monten, ce vendredi 17 août constitue la dernière chance accordée aux ex-combattants pour rejoindre le processus DDR. Ses propos sont recueillis par René Capita.
Ce vendredi, le 17, c'est la dernière chance, le dernier délai pour les milices de ces trois groupes de s'enregistrer pour faire partie de ce programme, ce dernier programme qui sera offert aux milices en Ituri. C'est la dernière chance d'être le bénéficiaire de ce programme et de faire partie de le développement en paix de la communauté d'Ituri que la population et effectivement RDC en tout attend. On vous attend.
Ce vendredi en Ituri, environ 400 autres combattants candidats à la troisième phase du PNDDR s'y sont fait enregistrer. Ce chiffre a été donné ce vendredi même à Bounia par le Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. C'était à l'occasion du dernier jour d'échéance accordé aux groupes armés pour déposer les listes de leurs combattants respectifs candidats à ce nouveau programme de désarmement. Sur place, le comité de suivi des opérations indique avoir reçu jusqu'à ce jour les noms de plus de 3000 combattants sur les listes présentées par les leaders des groupes armés, Jean-Claude Bissiabou.
Les 400 combattants qui se sont présentés jusque-là ont déjà rendu 274 armes du type AK-47, une vingtaine d'autres armes d'appui, des grenades et munitions, ainsi que 68 radios talkie-walkie. Selon les chargés des opérations de ces programmes auprès du PNUD en Ituri, les combattants déjà désarmés quitteront les sites pour retourner dans leurs milieux respectifs dès ce samedi pour la suite du programme. Contactés ce vendredi, les leaders des groupes armés du MRC et du FNI déclarent que la logistique suffisante n'a pas été mise à leur disposition pour atteindre tous leurs combattants éparpillés en brousse. Une préoccupation rejetée par le bureau du PNUD en Ituri. Ce bureau indique avoir mis tous les moyens à la disposition des leaders des groupes armés, notamment le carburant et la mobilité pour sensibiliser et atteindre leurs combattants. La même source reconnaît toutefois avoir strictement respecté les principes « un homme, une arme » depuis l'ouverture de points de désarmement le 4 août dernier. Notons que la fin de l'opération de désarmement pour cette troisième phase est prévue pour la fin du mois de septembre. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les militaires de la brigade mixée Bravo des FRDC ne gardent plus les positions qu'ils occupaient depuis plusieurs mois sur l'axe Kwenda-Nyakakoma en territoire de Rutshuru. Ces militaires ont levé leur camp sur cet axe depuis trois jours, sauf à Nyamilima, et ce sont des combattants hutu-rwandais des FDLR qui contrôleraient ce secteur depuis lors, affirment les habitants sur place. Du côté de la 8e région militaire, les responsables disent qu'une équipe est déjà sur place à Rutshuru pour vérifier cette situation.
C'est depuis mercredi dernier que les habitants du groupement Binz en territoire de Rutshuru disent avoir observé des mouvements des militaires mixés de la brigade des Bravo qui levaient leur camp. Et depuis le même jour, ce sont des hommes en armes présentés comme des combattants FDLR qui reprenaient carrément les postes abandonnés. Une situation qui, selon les habitants, a été observée dans plusieurs autres localités situées sur cet axe, depuis Kwenda à 15 km de Kiwanja jusqu'à Nyakakuma, 90 km plus au nord au bord du lac Édouard. Selon des sources administratives du territoire de Rutshuru, seul Nyamilima, 50 km de Kiwanja, est encore sous contrôle d'un bataillon de la brigade des Bravo. Un responsable de la brigade des Bravo affirmait, lui, que ses troupes ont été appelées à d'autres urgences ailleurs dans le même secteur sans plus. Pour le général Mayala Kiama, commandant de la 8e région militaire, il est encore difficile de confirmer si ces nouveaux occupants sont réellement des FDLR ou juste des villageois. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Au sud Kivu, c'est la population de Kamituga qui se plaint du rançonnement dont elle est objet de la part des FRDC. D'après les témoignages des habitants, des barrières sont érigées à plusieurs endroits sur la nationale numéro 2. Et à chaque passage, le passant est contraint de débourser une somme d'argent. C'est ce qu'explique Vincent De Paul Soumaïli Songa, président de la société civile de Kamituga. Il est au micro de Astrid Mujinga.
Ce qui se passe, c'est les rançonnements de la population. Les barrières sont érigées par-ci, par-là. Il y en a beaucoup. Sur la nationale numéro 2, sur le raccourci de Kasanga, à l'entrée comme à la sortie, à l'entrée de la cité minière de Kamituga, et partout là-bas, on exige aux passants 100 francs congolais, et même plus, chacun qui voudrait passer. Il doit payer ça, sans exception. Que ce soit les élèves qui vont à l'école, que ce soit les petits paysans qui se rendent au marché, que ce soit les passants qui n'ont rien avec eux, ils doivent payer. Il dit que ce sont des postes de contrôle, parce qu'il y a la présence des FDLR dans le coin. Quant à nos populations, c'est des barrières maquillées comme ça.
Interrogé à ce propos, le major Crispin Tambwe-Kabwit, commandant bataillon de Luiro à Kamituga, préfère parler de postes de contrôle placés à des lieux stratégiques. Il est également au micro d'Astrid Mujina.
Barrière, c'est quoi, madame? Quand on dit une barrière, c'est-à-dire, vous barrez la route. Mais moi, je ne barre pas la route. J'ai des militaires au-delà, d'ailleurs, de la nationale numéro 2. Ils sont stationnés pour contrôle et observation.
Mais tout à l'heure, là, ils ont quand même reconnu que de temps en temps, on leur donne 50 francs, 100 francs.
Volontaire. Mais ce n'est pas obligatoire. Volontaire. Si vous donnez, est-ce que moi, je saurais que si tu as donné aux militaires, parce que moi, je suis à Kamituga. Mon terrain est très vaste.
Cependant, le major Crispin Tambwe a promis d'envoyer son chargé de renseignement sur les lieux pour lui rendre compte de la situation. Le tribunal militaire de garnison de Kikwit, siégeant en chambre foraine à Kaemba, vient de condamner à la peine de mort trois policiers auteurs de la mort d'un mécanicien réparateur de moto. Pour rappel, la victime a été torturée avant de succomber trois jours après dans la prison de Kaemba. Fabien Kambinzi revient sur l'essentiel de l'audience.
Le verdict est tombé juste hier jeudi après trois jours d'audience. Le prévenu sous-commissaire adjoint Kabamba Musangi Sébastien et deux agents de la police judiciaire Belesi Mbaloko et Bibeki Muzeni ont été condamnés à la peine de mort pour arrestation arbitraire et détention illégale agréée. Un sous-commissaire adjoint a été dégradé et un civil renvoyé devant le tribunal de grande instance de Kenge pour s'occuper de son affaire. Pour rappel, le sous-commissaire adjoint Kabamba Musangi Sébastien et ses deux agents de la police judiciaire, tous Emba, avaient arrêté arbitrairement et détenu illégalement M. Kachamatenia alias réparateur miné où il est décédé trois jours après à la suite des tortures. La population en colère avait saccagé toute la prison et la maison du directeur de cette prison. Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Lancement ce vendredi à Kinshasa des activités du comité de pilotage des stratégies et actions de mobilisation des recettes urbaines. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, la mise en place de ce comité vise à maximiser les recettes de la ville. À ce jour, les recettes urbaines ne constituent que 20% du budget de la ville. Le coordonnateur de ce comité estime que l'instauration des guichets permettra de canaliser les recettes urbaines vers le trésor de la ville. Magloire Kabemba Okanda est au micro de René Capita.
C'est vrai qu'il se pose un réel problème d'évasion des recettes par le passé et peut-être encore actuellement. Ce sont les agents qui perçoivent, qui manipulent les recettes avec tous les risques que cela comporte. Mais avec le comité de pilotage, nous voudrions que partout, même au niveau des marchés, que dans les communes, partout où on perçoit une recette de la ville, que soit installée un guichet mobile d'une banque commerciale. De façon à ce que, quand la recette est perçue, directement, la recette tombe dans la caisse de la banque et à la fin de la journée, c'est l'équipe de la banque qui ramène les fonds vers le siège. Ça nous permettrait d'avoir une maîtrise de toutes nos recettes. Comme les sportifs le disent, nous tiendrons à la culotte les services générateurs du RFN.
Une centaine d'adolescents de Kinshasa sensibilisés sur le VIH-Sida et des problèmes liés à l'adolescence. C'est une initiative du réseau des associations congolaises de jeunes contre le Sida, Rajok en sigle, en collaboration avec l'UNICEF. La dite sensibilisation se fait au travers d'une kermesse organisée depuis hier au complexe scolaire Saint-Raphaël de Limété. Les bénéficiaires sont sensibilisés notamment sur les décisions à prendre en tant que jeunes pour rester intègres dans la vie de tous les jours. Le coordonnateur de Rajok Sida retrace les objectifs et la matière de ces journées de mobilisation. Trésor Kassia est au micro de Babel Pongo Massimango.
Ces journées citoyennes ont été organisées pour occuper utilement les adolescents des quartiers défavorisés de Kinshasa. Vous savez, la promiscuité dans les ménages conjuguée à la rareté d'espaces ludiques n'offre aucune perspective aux adolescents en termes d'apprentissage, d'épanouissement. Nous avons voulu aussi lancer officiellement la campagne de démultiplication de la formation des adolescents sur les compétences de vie courante. Donc, c'est des compétences psychosociales qui permettent aux adolescents de participer activement et efficacement au développement de leur communauté, mais surtout de se préserver face aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment le VIH-Sida. Il y a aussi les compétences en tant que telles. Il y a l'empathie qui permet aux jeunes de comprendre les problèmes des autres. La communication efficace qui devrait permettre aux adolescents de communiquer. La gestion des relations interpersonnelles. La capacité de résister à la pression négative des pères qui ont été abordés. Ces adolescents formés vont effectuer la démultiplication auprès de leurs pères.
Le représentant de l'UNICEF a invité la communauté nationale et internationale à tout mettre en œuvre pour que cette génération des enfants congolais soit la dernière à supporter le poids de la pandémie du sida. Le conseil d'administration de l'université de Mbujimayi au Kasaï oriental vient de prendre une série de mesures, notamment la mise en place d'un plan de crise comprenant toutes les solutions de financement. Dans une déclaration rendue publique jeudi soir, le conseil d'administration appelle le gouvernement central et les autorités provinciales à apporter leur appui financier pour éviter la fermeture de l'institution. Nikem Poutou nous parle des difficultés que connaît cette université.
Le problème fondamental de la crise au sein de l'université de Mbujimayi est celui du financement. Financement qui provenait à 80% de la MIBA, principale contributrice. Michel Aubert, président du conseil d'administration, a indiqué que la MIBA n'est plus en mesure de supporter à elle seule 80% du budget de cette institution. Autre mesure du conseil d'administration, la présentation par le comité de gestion intérimaire, désigné jeudi dernier, d'un plan de crise comprenant toutes les solutions de financement dont les subsides des pouvoirs publics, les activités génératrices de recettes et la mobilisation des amis de l'université. Pour sortir de la crise, le conseil d'administration propose également la création d'une ASBL, fondation de l'université, permettant de collecter les dons et de contrôler leur utilisation correcte. Notons que cette série de mesures n'est qu'une conséquence des manifestations des étudiants de l'université de Mbujimayi. Ces étudiants réclamaient le limogeage du comité de gestion, comité qu'ils accusaient de mauvaise gestion et d'incompétence. Mbujimayi, Nikem Poutou, Radio Okapi.
Parlons à présent du lancement du projet d'une brigade régionale d'intervention rapide pour les missions de maintien de la paix en Afrique australe. Ce lancement a été donné ce vendredi à Lusaka par les chefs d'État et des gouvernements. Selon le président Levi Mwanawasa, cité par l'AFP, la force armée de la SADC participera à des missions d'observation et de surveillance, de maintien de la paix et de sécurisation, ainsi qu'à des opérations de pacification. Toujours selon la même source, elle pourra également être chargé du désarmement suite à des conflits et fournir une aide en cas de catastrophe naturelle. C'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Okapi.